Ça va mieux, toujours rien? Non, il n'y a rien? Il y a quelque chose là? C'est bon? Ok.
Bonjour, bonjour à chacun, bonjour à tous ceux qui sont présents, bravo à ceux qui ont affronté la pluie froide à vélo pour venir nous rejoindre, bonjour aussi à tous ceux qui nous suivent à distance, peut-être à ceux qui ne peuvent pas nous rejoindre ni en présentiel ni à distance, mais qui sont avec nous de cœur. Dieu nous accueille, Dieu vous accueille chacun. Dieu nous accueille, quel que soit l'état de notre foi, quelle que soit notre situation de vie, et puis que vous soyez habitué depuis des années ou des dizaines d'années, ou nouveau ou visiteur. Aujourd'hui, c'est Benjamin Inchaud, Monsieur Inchaud Junior, qui va nous amener le message. Donc nous accueillons Benjamin et Sichuan, qui étaient parmi nous il y a, de 2015 à 2016 pour un stage pastoral. Entre-temps, ils ont doublé leur nombre d'enfants. Ils étaient deux, ils sont quatre. Donc bienvenue, on a beaucoup de plaisir de vous accueillir ici. Et en même temps, c'est un échange de chair par permutation circulaire cette fois, puisque notre Philippe Anchaud est à Cologny et Jean-René Moret, pasteur de Cologny, est à l'Espérance, à Lancy, et Benjamin, qui est pasteur à Lancy, est venu chez nous. Voilà. Bienvenue aussi à André Nidec, le frère d'André, qui est venu avec nous aujourd'hui. Vous comprendrez pourquoi quand André nous dira quelques mots dans la partie des annonces. Je vous propose de prier déjà pour invoquer la présence de Dieu. Nous te remercions, Seigneur, pour ce privilège de pouvoir être rassemblés. Merci pour ta présence parmi nous. Ouvre nos cœurs à ta parole. Nous voulons aussi te prier pour ceux parmi nous qui passent par le deuil, par la souffrance, par la maladie, que des fois seulement certains connaissent. Sois avec eux, encourage-les. Nous te prions aussi pour ce monde, dans ce temps où il y a des guerres qui sont si meurtrières, si épouvantables. Nous te prions pour les Israéliens et les Palestiniens. Nous te prions pour l'Ukraine qu'on oublie parce qu'on ne parle plus que de ce qui se passe en Israël. Nous te prions pour la paix dans ce monde troublé. Et nous te prions que nous, à notre petite échelle, de communauté mérinoise, nous puissions là être, là où tu nous appelles à te servir, à être des artisans de paix. Amen. Oui, Dieu nous accueille, mais Dieu nous appelle. Sans vouloir divulgâcher le message de Benjamin tout à l'heure, il va être question d'appel et d'engagement. Mais un jour, il y a un peu plus de 3 millénaires, le peuple d'Israël était un petit groupe horriblement mis en esclavage au pays d'Égypte, en grande souffrance. Un certain Moïse s'était enfui, il était dans le désert à garder les moutons, et Dieu l'appelle. Puis il lui dit ceci, « Puisque les cris des Israélites sont montés jusqu'à moi, et que j'ai aussi vu de quelle manière les Égyptiens les oppriment, je t'envoie maintenant vers le Pharaon. Va et fais sortir d'Égypte Israël, mon peuple. » Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, hein, mais pour moi, je n'ai jamais eu dans ma vie des appels soudains comme ça où on répond « oui » en 3 minutes. Mes engagements sont tous des processus d'un long cheminement. Mon engagement pour le Laos, il a été le résultat d'un pas mal d'années où il y avait ce pays quelque part dans un coin de ma tête, mais il a fallu des circonstances, il a fallu une histoire d'amour pour que finalement ça se concrétise. Et puis, ça a orienté quand même pas mal tout le reste de ma vie dans des directions totalement imprévues, et puis jusqu'à aujourd'hui. Mais il y a aussi d'autres appels hein, qui sont très différents. Je crois que chacun a des expériences. Dieu appelle, de toute manière, Dieu nous appelle tous à quelque chose qui donne sens à notre vie, pour reprendre le thème de la prédication de dimanche dernier. Voilà, ben nous voulons maintenant nous tourner vers ce Dieu qui nous accueille et nous appelle par un temps de louanges chantées préparé par Thierry et son équipe.
Car c'est toi le Dieu qui me sauve. Je compte sur toi tous les jours. Nous allons chanter Christ est la lumière, suivi de ta bienveillance.
Nous crions en ensemble. Victoire, Christ est la lumière du monde. Que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère. Son nom est saint. Infini qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère. Sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère. Son nom est saint, il est saint, il est
J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute.
Fidèle à moi, je veux le suivre, je veux marcher. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut.
Son règne vient et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté,
marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô éternelle, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sous le rocher de ton salut.
Maintenant, nous allons chanter un chant pour les enfants, Une flamme en moi.
Pour les enfants, les moniteurs qui vont descendre pour leur partie. Seigneur, nous te remercions pour ces enfants qui sont là parmi nous. Nous te prions que tu les bénisses, nous te prions que tu accompagnes les moniteurs qui s'en occupent pour qu'ils puissent aussi recevoir quelque chose de ta part ce matin. Dans le nom du Christ. Amen. Et merci à Claire et Chantal, c'est bien ça? Claire et Denise. D'accord. Okay. Claire et Denise qui vont prendre en charge nos enfants pour la suite de ce temps de culte. Et avant de passer au temps de lecture biblique et de prédication, un chant pour nous introduire dans ce temps d'écoute de la parole de Dieu.
Mmh.
entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Ne permet à personne, Seigneur, d'en reprendre rien.
Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout, tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix.
Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Tu connais que moi-même tous les besoins de mon cœur, et pour mon bonheur suprême, tu veux me rendre vainqueur.
Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur.
Prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit à toi, que par ta divine flamme mal soit détruit en moi.
Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme. Règne sur mon cœur.
Oui, prends tout.
Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme. Règne sur mon cœur.
J'invite Benjamin à nous rejoindre.
Ouais.
Et Elise, voilà. Seigneur, nous te remettons ce temps d'écoute de ta parole. Inspire encore Benjamin et ouvre nos cœurs à ta parole ce matin. Amen.
Alors, je vais lire l'évangile de Luc, chapitre 5, versets 1 à 11. Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit, au bord du lac, deux barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui appartenait à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu sur le rivage. De s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons, qui étaient dans l'autre barque, de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en allait de même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Alors ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent.
Ça fait plaisir d'être avec vous ce matin. Je revois des visages connus, d'autres que je ne connais pas encore. Merci pour la lecture du texte d'aujourd'hui. C'est un passage étonnant, parce qu'il nous raconte l'histoire d'un homme qui a travaillé dur toute la nuit. C'est un homme compétent, bien entouré, bien équipé, mais malgré son dur labeur, il n'obtient rien. Après son échec, il est en train de ranger ses outils, et là, on vient lui offrir sur un plateau d'argent l'équivalent de plusieurs jours de travail. Une récompense bien méritée, en quelque sorte, après cet échec, une providence qui est là, juste magnifique. Mais la réaction de Pierre est très étonnante. À l'église de l'Espérance, nous sommes sur une série de prédications sur l'évangile de Luc. Et puis, il y a quelque temps, j'ai parlé de ce texte et je me suis dit, mais tiens, je pourrais reprendre cette prédication pour ce matin. Le projet de l'auteur de l'évangile de Luc, c'est de permettre à ses lecteurs de faire la part des choses. Est-ce que Jésus est bien celui qu'on dit qu'il est ? C'est ça, c'est pour ça qu'il écrit l'évangile de Luc, pour qu'on puisse faire la part du vrai et du faux. Alors, je vais sortir la télécommande pour le PowerPoint. Et ça fonctionne. Magnifique. Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Jésus faisait des miracles, il chassait des démons et il guérissait beaucoup de malades. Aujourd'hui, nous sommes dans une société qui est pourtant frileuse quant à sa spiritualité, mais quand il y a des promesses de guérison instantanée, les gens se pressent pour voir de quoi il s'agit. Alors, imaginez un homme qui ne fait pas des promesses, mais qui accomplit réellement des miracles. On vient de toutes parts pour voir ces choses extraordinaires et l'entendre parler. Et quand il y a une foule, mais c'est pas toujours facile. Peut-être vous vous souvenez de vos souvenirs d'école quand la maîtresse voulait présenter un objet, il y a toute la classe qui accourait, puis la maîtresse devait dire « reculez un petit peu pour que tout le monde puisse voir ». Alors quand il s'agit d'enfants, la situation est assez bon enfant. Mais quand c'est des foules qui agissent de cette manière-là, la situation peut assez vite devenir tendue, voire dramatique. La foule est là, presse Jésus de toutes parts, puisqu'on ne peut pas la faire reculer, il n'y a pas de cordon de sécurité, il n'y a pas de garde du corps pour éloigner la foule. Jésus a une idée, il voit des barques, il monte dans l'une d'entre elles et prend de la distance par rapport à la foule. Ainsi, tout le monde peut l'entendre. Après avoir souligné l'envie des foules d'entendre la parole de Dieu, la parole que Jésus annonçait, Luc ne dit absolument rien sur le contenu de l'enseignement de Jésus. Quel était l'enseignement de Jésus ? Alors, dans le chapitre précédent, Luc avait fait un petit résumé de ce que disait Jésus. Un jour, Jésus prend la parole dans la synagogue, lit un texte et il dit qu'il a été consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Et c'est jusqu'à présent, dans l'évangile de Luc, à peu près tout ce qu'on sait de l'enseignement de Jésus. Et il y a des miracles, beaucoup de miracles, qui viennent attester la mise en œuvre de cette parole prophétique. Le centre du message de Jésus est extrêmement simple. Jésus est venu nous libérer. Et ça fait du bien de revenir à cette simplicité de l'évangile. Jésus est venu nous libérer. Dieu est infiniment grand et lorsqu'on s'intéresse à lui, eh bien, on peut toucher à des questions qui deviennent vite, certes passionnantes, mais très complexes. Mais le message le plus important, l'essentiel, peut être résumé très simplement. Jésus est venu nous délivrer du mal et il l'a fait en mourant pour nous. Revenez quelques années en arrière. Qu'est-ce qui vous a poussé à adhérer à Jésus ? La majorité des gens reconnaissent que le Fils de Dieu est venu pour les délivrer du mal. Le reste, toutes les questions complexes auxquelles on s'est intéressé par la suite, le millénium, les dons de l'esprit, l'importance de prier et lire la Bible chaque jour, et plein d'autres questions comme ça, c'est venu après. Et il est bon de se souvenir de cette simplicité. Et nous assistons justement dans ce texte à un nouveau départ. Pierre choisit de suivre Jésus-Christ. Jésus a fini d'enseigner la foule et il se tourne vers Pierre, qui est aussi appelé Simon ou Simon-Pierre. Il lui ordonne d'aller là où l'eau est profonde et de jeter ses filets. Or, Pierre, c'est un pro et il doit être bien fatigué. Jésus l'a pris à l'improviste, il est arrivé là, il avait travaillé toute la nuit, puis il dit « Écoute, je vais monter sur ton bateau ». Alors bon, Pierre s'exécute, et puis il l'emmène là où Jésus lui demande. Puis là, pas question de piquer un petit somme pendant que Jésus y parle. Il est devant toute la foule. Puis bon, Jésus, ça devait quand même être assez passionnant ce qu'il disait, donc même après une nuit blanche, je pense qu'on devait avoir envie de l'écouter. Il faut écouter l'homme de Dieu. Il ne peut pas faire la sieste tranquillement. Mais, même si c'est passionnant ce que Jésus dit, entre bien parler et savoir pêcher des poissons, c'est deux choses différentes. Mais bon, puisque Jésus a parlé, Pierre s'exécute. Et là, mais quelle surprise ! Il a pris tellement de poissons qu'il n'arrive pas à remonter son filet. Il est obligé d'appeler ses collègues pour venir l'aider à prendre tous les poissons. Et quand il les remonte, c'est tellement lourd que les barques s'enfoncent dans l'eau. Luc ne nous parle pas de l'enseignement de Jésus, mais il prend le temps de raconter ce miracle. Et il y a bien des raisons. À l'époque de Luc, quiconque s'intéresse au christianisme, à l'Église naissante, eh bien, tout le monde a entendu parler de Pierre. Même aujourd'hui, ceux qui s'intéressent vaguement au christianisme ont entendu parler de Pierre, puisque les papes se revendiquent de l'apostolat de Pierre. Donc, lorsque Luc raconte comment Pierre s'est tourné vers Jésus, il est en train de le montrer comme exemple. Et d'ailleurs, Pierre, dans les évangiles, on voit qu'il est souvent porte-parole des disciples, comme c'est le cas dans ce récit. Cette rencontre avec Jésus a quelque chose d'exemplaire pour nous. Avant de pouvoir suivre Jésus, Pierre a eu besoin d'un miracle. Il a eu besoin d'une révélation personnelle. Et d'ailleurs, la foule ici semble avoir disparu. On ne sait pas ce qu'elle est devenue, mais elle n'intervient pas devant ce miracle. Et ce besoin de révélation personnelle, ce besoin de miracle, je crois que c'est quelque chose que beaucoup de chrétiens ont rencontré. À un moment donné, ils ont entendu parler de Jésus, on a entendu parler de Jésus, et il est venu intervenir de façon particulière dans notre vie. Une façon que nous avons perçue comme miraculeuse. Bien sûr, ceux de l'extérieur, ils ont peut-être dit, mais de toute façon, dans le lac, il y a des poissons. Mais nous, on savait que c'est Christ qui est venu attester la véracité de sa parole dans nos vies. puis bien sûr, si la rencontre avec Jésus s'est faite d'une autre manière, s'il m'en parlait au début du culte, mais il n'y a aucun problème. On a un Dieu qui est tellement grand que les rencontres avec lui peuvent se passer de bien des façons différentes. Mais lorsqu'il y a une rencontre comme celle-ci, de façon claire, directe avec Jésus, il y a deux choses qui se produisent, et même trois. Nous sommes d'une part saisis par la sainteté de Dieu. Et au même moment, alors que nous sommes saisis par cette justice, par cette beauté, par cette sainteté, eh bien, notre péché nous apparaît tellement sale, tellement obscur, qu'on réalise le gouffre qui nous sépare de Dieu. Nous ne devenons pas pécheurs ce jour-là, mais nous en prenons conscience. Ce n'est pas naturel de dire « je suis un pauvre homme pécheur et perdu ». On a besoin d'être confronté à Dieu pour ça. Au contraire, naturellement, on va se dire « mais finalement, je ne suis pas si mal, je suis meilleur que mon voisin, et puis je fais de bonnes œuvres ». Et nos bonnes œuvres viennent éclairer un petit peu à la manière d'une bougie quand on est dans une pièce plongée dans le noir, on allume une bougie et nos bonnes œuvres, on a l'impression qu'il y a de la lumière. Mais quand on rencontre le Christ, c'est un peu comme si tout d'un coup quelqu'un venait ouvrir les volets de la pièce et qu'il y a le soleil qui s'engouffrait dans la pièce. Et là, mais quel boxon ! Le sol est jonché de détritus. Les murs ont moisi, la nourriture est devenue avariée. Et que dire de notre petite lumière? Face au soleil, elle a disparu. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Il ne réagit pas comme un homme à qui on vient de faire un cadeau. Il vient de recevoir plusieurs jours de salaire sur un plateau d'argent. Il ne va pas faire un chèque à Jésus puis dire « Merci mon pote, je vais aller me régaler ». Il tombe aux pieds de Jésus et dit « Éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur ». Pourtant, Jésus n'est pas venu pour condamner les hommes. Pas cette fois-ci. Un jour, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Mais comme il l'a dit, il est venu libérer les captifs. Et le miracle qu'il a fait ouvre les yeux à Pierre et à ses compagnons. N'aie pas peur. C'est la réponse de Jésus. N'aie pas peur. Une parole que le Fils de Dieu nous adresse lorsque nous sommes saisis par la présence de Dieu. Il est venu nous purifier pour que nous soyons dignes d'entrer dans la présence de ce Dieu saint et inaccessible. Il a rendu celui qui était inaccessible présent dans nos vies. Il est venu nettoyer notre pièce, faire le ménage, apporter la lumière. Christ, la lumière du monde. N'hésitons pas à revenir au jour de cette rencontre, à la simplicité avec laquelle nous avons accueilli la parole de Dieu, au miracle qui est venu sceller cette vérité dans nos vies. C'est un élément fondamental dans notre parcours. Il arrive que certaines personnes n'aient pas besoin de miracles pour croire, et c'est magnifique. Mais revenez à ce qui vous a donné la conviction que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. N'aie pas peur, dit Jésus, n'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Alors ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Jésus leur offre des poissons miraculeusement et ils n'en profitent même pas. Ils suivent le Christ. Alors on peut supposer que le poisson n'a pas été perdu, il y en a d'autres qui s'en sont occupés. Mais c'est étonnant, n'est-ce pas? Ils laissent là ce qu'ils ont reçu, renoncent à leur métier, probablement à leur entreprise, et se mettent à suivre Jésus. Ils ont découvert leur vrai trésor. Ils ont réalisé que le miracle n'était pas un but en soi, mais un moyen que Dieu était en train d'utiliser pour leur montrer ce qui avait de la vraie valeur, Jésus-Christ. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. On remarque que Jésus utilise une image que Pierre connaît bien, une image de son contexte professionnel pour lui indiquer sa mission. Cette rencontre avec le Christ était essentielle pour Pierre pour qu'il puisse mener à bien la mission que Jésus lui confiait. Il a reconnu qu'il était pécheur et perdu sans Jésus, un état dans lequel tout homme loin de Dieu se trouve. L'accès au paradis n'est pas mérité par nos bonnes actions et l'enfer mérité par nos mauvaises actions. Non, la vie éternelle est réservée à ceux qui reconnaissent leur condition d'homme pécheur et croient au salut offert par Jésus-Christ. Et l'enfer est réservé aux personnes qui refusent ce salut offert par Jésus. Si l'expérience de Pierre sert d'exemple pour nous, alors cette expérience est fondamentale. C'est en ayant conscience de notre statut d'homme pécheur perdu sans le Christ que nous allons pouvoir mener à bien la mission qu'il nous confie. Aller à la pêche. Pierre devait arracher à la mer les poissons. Et il y a là une image, un principe général qui est illustré. Si l'on n'arrache pas les poissons de la mer, ils restent dans l'eau. Si on ne va pas chercher les gens dans notre société, ils vont rester dans leurs conditions et avec plaisir. Et l'image s'arrête là, parce que Dieu ne nous sort pas de la mer pour nous manger, il nous sort de la mer pour nous offrir la vie. Pierre laisse tout et suit Jésus. Comme souvent, lorsque on prend le temps de méditer la parole de Dieu, c'est intriguant. Ça nous interpelle, ça m'interpelle. Est-ce que chacun de nous doit renoncer à son métier, à ce qu'il fait, à sa vie, et devenir évangéliste? C'est une question, quand je lis ce texte, c'est une question qui me saute aux yeux. Mais certainement pas. Pourtant, le fond de l'interpellation est la même pour tout le monde. Est-ce que nous avons cette attitude de cœur d'être prêt à tout laisser pour mettre Christ à la première place? Est-ce que vraiment Jésus est ce que nous considérons comme étant le plus précieux au monde et que nous serions prêts à tout laisser pour le suivre? N'hésitons pas à revenir au jour de la rencontre avec Jésus, au jour où nous avons dit « Oui, Seigneur Jésus, je vais te suivre, quoi que cela me coûte et quoi que je dois faire. » Quel signe vous a-t-il laissé ce jour-là? Quelle mission vous a-t-il confié? On aimerait bien que Dieu accompagne notre quotidien de miracles. Mais malheureusement, l'expérience nous montre que ce n'est pas le cas. Il y a certaines périodes de vie, ça arrive qu'il y en ait plus que d'autres, mais globalement, il n'y a pas un miracle chaque jour. Oui, il y a des prédicateurs qui plaident pour des miracles aussi fréquents que les cafés. Mais à ma connaissance, personne ne vit ça. Et en tout cas pas en Suisse. Le risque, quand on met une telle insistance sur le miracle, mais c'est de s'attacher au signe plutôt qu'à la réalité à laquelle Dieu veut nous ouvrir les yeux. Le risque, c'est d'aller faire un check à Jésus, puis d'aller manger le poisson, au lieu de plier le genou devant Jésus et de le suivre. Alors revenons au commencement, revenez au commencement. Pourquoi avez-vous choisi de suivre Jésus? Alors on pourrait continuer et se demander comment mettre Dieu à la première place, comment être prêt à tout quitter pour le suivre. Et j'aimerais poser une question un petit peu différemment. Que faire quand nous sommes dans une période de vie où Dieu n'est plus notre priorité? Comment savoir ce que Dieu me demande de faire à moi personnellement? Alors la première chose à dire quand on réalise que Dieu n'est plus notre priorité dans la vie, c'est un constat d'échec. Et je ne le dis pas par rapport à ce que vous vivez, mais je le dis personnellement, quand ça m'arrive, d'un coup je réalise, mais Dieu, je ne t'ai plus mis à la première place. Il y a un sentiment d'échec profond. Et le risque, c'est d'en rester là et de s'attacher à des raisonnements sur la foi qui sont certes fort intéressants, qui influencent notre foi, mais qui surtout nous permettent d'oublier qu'on n'est pas en train de mettre Jésus à la première place. Jésus est venu pour nous sauver, pour nous libérer. C'est ça son message, c'est ça le centre. Revenons à cette simplicité. Jésus est venu pour nous libérer. En tout temps, nous pouvons nous approcher de lui. Laisser la lumière, sa lumière, éclairer nos vies. Et accepter cette parole, n'aie pas peur. C'est pas la peur qui va nous aider à marcher avec Dieu, c'est la confiance. Mais peut-être que tu te demandes, mais où trouver le Christ ? Je cherche, je ne trouve pas. Imaginons un jeune homme qui voit une jolie demoiselle et qui a envie de s'approcher d'elle. Tu as envie de pouvoir la rencontrer. Pourquoi pas, par la suite, une fois qu'il l'aura rencontrée, pouvoir se marier avec. Ben, il va chercher toutes les occasions possibles pour rencontrer cette jeune fille. Il va traîner à la sortie de l'Uni pour espérer pouvoir la rencontrer. Il va voir s'il n'y a pas un ami d'un ami d'un ami qui peut la lui présenter. Et nous, avec Jésus, qu'est-ce qu'on fait si on a envie de cette rencontre ? Bien sûr, on peut trouver Jésus dans sa chambre en lisant la Bible et en priant. Mais pourquoi pas aller à l'église, à une rencontre de prière, à une soirée de louange, à une convention, à un événement, partout où Christ se trouve. Allons chercher le contact. Dieu est bon. Il se laissera trouver. Un jour, Pierre a perdu la flamme. Il faut dire que Jésus s'était fait crucifier, qu'il était mort et qu'il avait été enterré. Et Pierre, avec ses compagnons, se trouve seul. Alors, que fait-il ? Il se remet à sa première vocation, la pêche. Que pouvait-il faire d'autre ? C'est peut-être ton cas aussi. Tu as commencé à suivre Jésus avec fougue, et pour une raison ou une autre, tu t'es arrêté et tu es retourné à ta première vocation. Pierre pêche avec ses amis toute la nuit. C'est une histoire qu'on peut trouver et qu'on peut lire en Jean 21. Toute la nuit, ils pêchent et ils ne prennent rien. Au matin, un homme arrive et leur dit de jeter leur filet de l'autre côté de la barque. Et là, ils n'arrivent même pas à sortir le filet tellement il y a de poissons. Alors Pierre, il comprend tout de suite, cet homme-là qui se trouve sur le rivage, c'est Jésus. Alors, il saute dans l'eau et rejoint son Seigneur. Et à travers une série de questions, Jésus lui montre qu'il le réhabilite dans sa mission. N'aie pas peur. Aujourd'hui, Jésus t'offre la possibilité de te réhabiliter dans la mission qu'il t'a confiée. Alors, quelle mission est-ce que Jésus te confie ? Faut-il tout quitter pour annoncer l'évangile dans les rues et compter sur la providence pour vivre ? Certains ont cet appel, mais cela reste une minorité. Il y a de nombreux exemples bibliques et historiques pour montrer que Dieu appelle littéralement certaines personnes à tout quitter, et d'autres symboliquement, dans une attitude de cœur. L'important est de faire ce que Dieu nous demande, de suivre Jésus, de répondre à son appel. Et son appel est en lien avec la nécessité d'annoncer l'évangile. Si tu sais exactement ce que Dieu te demande de faire, mais fonce, ne te retiens pas, vas-y. Pour d'autres, l'attitude est là, vous êtes prêt à tout quitter, mais pour faire quoi ? Alors je vous propose, dans ce passage, on voit quelques éléments, on voit quatre éléments très importants pour savoir ce que Dieu nous demande de faire. Enseigne la parole de Dieu. C'est ce que Jésus a commencé à faire au verset 1 à 3. Obéis au commandement de Jésus. Pierre jette son filet. Humilie-toi devant Dieu. On est appelé à être humble devant notre Seigneur et de faire de Jésus notre trésor, que ça se manifeste par une consécration concrète dans la vie de tous les jours, une consécration qui est constante et qui dure dans le temps. Et dans tout ceci, souvenons-nous que Jésus est venu pour nous libérer. Le but, c'est pas de s'enfermer dans un système religieux, mais d'être libre, libre de faire ce que Jésus nous demande. Et pour le reste, ne soyons pas inquiets. Dieu sait parler très fort. Si on est prêt à l'entendre, si on le recherche et qu'il a quelque chose de précis à nous demander de faire, il va parler suffisamment fort. Mais nous, soyons fidèles dans ce qu'il nous confie aujourd'hui. Jésus est là aujourd'hui et il t'appelle. Que vas-tu lui répondre ? que vas-tu répondre à Jésus ? D'un côté, il n'y a aucune pression, parce que demain, Jésus sera toujours là et il continuera à t'appeler. D'un autre, Dieu est tout-puissant. C'est lui qui est en train d'appeler. Et nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Est-ce qu'il est sage de remettre à demain une décision qu'on peut prendre aujourd'hui ? Il y a encore un dernier point avant de conclure. Pourquoi Jésus a choisi de se révéler à travers une pêche miraculeuse et pas des cailles qui tombent du ciel, par exemple, ou en marchant sur l'eau ? Il me semble qu'il y a un lien fort avec la mission que Dieu nous confie. Pierre avait tout fait juste. Il s'était levé à la bonne heure pour aller pêcher le poisson, il avait pris les bons outils, il avait pris les bons compagnons. Ça aurait dû marcher. En plus, il y avait des poissons dans le lac, comme on le voit un peu plus tard. La pêche, c'était son domaine. Et pourtant, c'est seulement sur une parole de Christ que ça fonctionne. Seulement sur une parole de Jésus que le succès est au rendez-vous et au-delà de toute attente. Pourquoi ? Parce que nous avons besoin d'une parole de Jésus. Soyons persévérants, faisons preuve de foi. Il nous a confié une mission qu'il va nous permettre d'accomplir. Et cet accomplissement se fera sur sa parole pour que nous ayons foi en lui. La parole de Dieu est comme un miroir. Lorsqu'on tourne les yeux vers Dieu, il y a comme une image de nous qui nous est renvoyée, de notre condition. Est-ce qu'on va choisir de repartir comme nous sommes venus ? Ou allons-nous demander à Dieu de venir nous sauver ? Pierre n'était pas fou. S'il n'est pas allé manger le poisson, c'est parce qu'il avait saisi que Jésus était celui qui avait le plus de valeur. Je vous propose qu'on s'approche de Dieu dans la prière. Seigneur, comment ne pas s'adresser à toi directement après avoir lu cette histoire, après avoir été confronté à ta sainteté, à ta toute-puissance ? Seigneur, nous voulons revenir au jour de notre rencontre avec toi. Nous voulons que tu ravives la flamme pour toi. On a envie de se lever, de dire « Oui Jésus, nous allons tout quitter pour toi. Nous voulons te mettre à la première place, nous voulons te chérir par-dessus tout. » Seigneur, alors que nous sommes là assemblés devant toi, viens nous parler à nous personnellement, pour que nous entrions dans la mission que tu nous confies, pour que nous soyons purifiés, que nous soyons acceptés par le Père. Prononce cette parole, n'aie pas peur. Et Seigneur, dans cette mission que tu nous confies, nous voulons nous attendre à toi, nous attendons cette parole, jette ton filet. Seigneur, nous avons besoin que tu œuvres pour nous, sinon ce que nous allons faire sera vain. Nous plaçons notre confiance en toi, Seigneur Jésus. Amen.
Je propose de prolonger ce temps par un temps ouvert à la prière personnelle, la prière communautaire ou quelque chose que quelqu'un a à partager en réponse à ce que nous avons entendu, cette mission qui nous est confiée à chacun, peut-être la flamme qui s'éteint, mais Dieu est là qui nous appelle.
Vous êtes la lumière du monde. Quand une ville est construite sur une montagne, elle ne peut pas être cachée. Merci Seigneur parce que cette montagne, c'est toi. Et ma prière ce matin, c'est que nos fondations puissent être bien ancrées en toi pour pouvoir briller aussi. Amen.
Amen.
Seigneur, ce qui m'a donné envie de te suivre, c'est d'avoir réalisé qu'il y avait des gens qui étaient prêts à perdre leur liberté et même à mourir pour toi. Cet amour passionné m'a donné envie de le connaître. Et Seigneur, que cet amour passionné continue de m'habiter jour après jour. Et que ainsi, j'ai à cœur de partager ce que je vis, ce que tu mets sur mon cœur, en comptant sur toi, Seigneur, parce que tu dis que c'est toi qui fais croître. Tu nous donnes la mission de semer et à toi de faire croître. Renouvelle en moi, renouvelle en nous cet amour passionné pour toi, en réalisant le prix que tu as payé et que tu vaux la peine, Seigneur, ça vaut la peine, une vie engagée avec toi. Alors, sois loué, béni, adoré, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen. Seigneur, je prie pour Pascal et ses parents, c'est pas difficile. Que tu sois à leur côté. Ils sentent ta présence. Amen.
Amen.
Oui, Seigneur, merci pour les fois où tu es venu attester ta parole par un événement qui m'a touché personnellement, qui me fait comprendre qu'il n'y a que toi qui pouvais agir comme ça. Merci parce que ça m'encourage à continuer à te suivre, même quand il y a des choses qui paraissent plus difficiles ou que les circonstances sont défavorables. Mais je sais que toi, tu restes là. Alors, je te prie de te révéler à ceux qui en ont encore besoin, en particulier, et que tu interviennes dans leurs circonstances pour qu'ils se sentent accompagnés par toi. Amen.
Seigneur, il y a raison d'annoncer ta parole, d'aller à la pêche aux hommes, aux femmes, aux enfants qui cherchent cette lumière que tu es. Et pourtant, parfois, souvent maintenant, tu nous mets face à nos échecs. Et nous avons besoin, Seigneur, que tu nous appelles, que tu nous parles, afin que nous changions peut-être nos méthodes, nos façons d'aller à la pêche et de répondre à ta parole qui nous dit « N'aie pas peur, je fais de vous des pêcheurs d'hommes » d'une autre façon, afin d'être des lumières qui brillent. On se de Amen.
Amen.
Je crois que ce matin, Dieu dit à certains, où es-tu? Un peu comme il a posé la question à Adam et Ève dans le jardin, qui se cachaient ou qui pensaient pouvoir se cacher de Dieu, nous faisons parfois la même chose. On croit pouvoir se cacher. On sait que ce n'est pas vrai, bien sûr, mais il y a ce faux sentiment de sécurité.
C'est pas possible.
Dieu sait où nous sommes, bien sûr, mais il veut que nous sortions de notre cachette. Ce matin, il nous dit « Où es-tu ?» pour que nous puissions faire ce pas de retourner vers lui et de dire « Je suis là, je veux revenir vers toi. »
Oui, Seigneur, dans ta vie sur cette terre, tu as aimé, tu as été ému de compassion, sans relâche, pour toutes les personnes que tu rencontrais, jusqu'à donner ta vie. Et c'est vrai que nous, souvent notre amour est limité, il s'use. Nous avons peut-être la lassitude face aux difficultés ou simplement ce qui semble compliqué dans la vie. Seigneur, renouvelle la flamme en nous. La flamme pour toi, la flamme pour aimer notre prochain. Amen. Nous voulons maintenant entrer dans un temps de Sainte-Cène par un chant d'abord. Tu es venu jusqu'à nous.
Car en aimant
Alors que nous allons prendre la Sainte Cène, et en pensant au texte que nous avons lu, j'étais frappé entre le miracle, le signe et la réalité. Nous allons partager la Sainte Cène et ça nous renvoie à une réalité beaucoup plus grande. C'est un élément du quotidien ou de hebdomadaire, du dimanche que nous faisons régulièrement et qui nous renvoie à une réalité glorieuse et splendide. Jésus est mort sur la croix pour nous racheter, pour nous purifier de nos péchés. Et alors que nous allons manger le pain, symbole de son corps qui a été livré pour nous, que nous allons boire, je crois qu'il y a du vin autour et du jus de raisin au milieu, si c'est toujours comme ça, ou l'inverse, je te laisserai préciser, Sylvain. Ça représente son sang qui a coulé pour nous. On peut être réhabilité, pardonné. C'est une manière que Dieu, dont Dieu nous dit, n'aie pas peur. Il a donné ce signe pour qu'on se rappelle de cette réalité, de manière régulière, n'aie pas peur. Jésus est avec nous. On peut s'approcher de Dieu. Il nous purifie et nous sommes proches de lui.
Quand l'heure fut venue, Jésus se mit à table avec les apôtres. Il leur dit « Combien j'ai désiré prendre ce repas de la Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le déclare, je ne le prendrai plus jusqu'à la venue du règne de Dieu. » Ayant reçu une coupe, il remercia Dieu et dit « Prenez cette coupe et partagez-la entre vous, car je vous le déclare, dès maintenant, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que vienne le règne de Dieu. » Puis il prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le partagea et leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il leur donna de même la coupe après le repas en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance qui est conclue grâce à mon sang versé pour vous. » Seigneur, alors que nous partageons le pain et le vin, que ton esprit vienne en nous, nous rappeler ton amour sans limite pour nous, nous rappeler que tu nous as libérés pour nous mettre au service de ton amour, au service de nos prochains. Amen. Est-ce que quelques personnes, peut-être 3 ou 4 personnes peuvent venir nous aider pour la distribution. Comme le dit Benjamin, il y a du jus de raisin au milieu dans les petits verres colorés et du vin à droite. Et ceux qui souhaitent prendre la coupe, vous levez la main. Seigneur, qu'à travers ce geste que nous faisons ensemble, ton amour, ton esprit irriguent nos vies pour que nous puissions répondre à la vocation que tu adresses à chacun de nous. Amen. Passe maintenant à un temps d'annonce qui font partie de la vie d'Église. Alors, il y en a un peu beaucoup aujourd'hui, on essaye toujours de limiter, mais je crois que c'est aussi la richesse de notre vie d'Église. Et je commence par des nouvelles un peu personnelles. Je vais commencer par donner la parole à André Dufour, qui a un petit message pour nous.
Chers amis, je vous dis d'abord bonjour, mais c'est aussi l'heure pour moi de vous dire au revoir. Et oui, beaucoup le savent, j'ai déménagé en début d'été à Rolles. J'y ai trouvé avec plaisir ma famille et la famille de Bernard. La solitude est habitée. Gentiment, je fais ample connaissance avec mes 3, bientôt 4 petits-neveux de 2 à 6 ans. Je m'initie avec bonheur à leur petit monde. Il y a 32 ans, en octobre, vous m'accueilliez avec beaucoup, beaucoup d'affection. J'ai passé de belles années enrichissantes à la chapelle, puis dans ce bâtiment, et surtout vous côtoyant, en partageant notre foi commune, en vivant la convivialité et la fraternité. Ça a été de belles années, les plus belles de ma vie. Surtout, c'était les années partagées avec mon cher époux Bernard. Un grand merci à vous, mes amis, pour votre amitié et votre affection, pour tout ce que vous nous avez témoigné au cours de ces ans. Je vous dis au revoir, mais espérant bien vous revoir de temps à autre, soit ici, soit à Rolles. Au bord du Léman, je retrouve les places de jeu et les écoles de mon enfance. Tant de souvenirs me reviennent en mémoire lors de mes promenades. Et j'ai aussi retrouvé l'église de mon enfance, de ma jeunesse, celle qui m'a vu grandir, celle qui m'a accompagnée lors de mon baptême. Les enfants que j'ai connus comme monitrice d'école du dimanche sont maintenant des grands-parents. Et oui, les copains et copines du groupe de jeunes, je les retrouve maintenant au groupe Fleurs d'automne. Je vous quitte, chers amis et amies, avec un petit pincement de cœur et beaucoup, beaucoup de reconnaissance. Vous avez tant représenté pour Bernard et moi. Les et M, à noter que l'église que je rejoins, c'est aussi les et M, Église évangélique des marronniers. Alors, les et M restent gravés dans mon cœur. Et j'ai une pensée toute particulière et émue pour mes amis du fil d'argent, et peut-être beaucoup ne sont pas là, mais nous regardent en streaming. Que Dieu vous bénisse, vous garde dans son amour, dans sa paix et dans l'unité.
Je crois qu'on peut dire merci à André, hein, de la part de tout le monde pour ce qu'elle a apporté, notamment au fil d'argent, mais dans beaucoup de choses aussi. Je pense que beaucoup de cafés que vous avez bu ici ont bénéficié des services d'André. Et puis, je vois que l'église des marronniers, ils ont trouvé un nom très poétique pour ce qui est ici le fil d'argent. Voilà. J'aimerais, Seigneur, te demander de bénir André dans la suite de son parcours, et de bénir aussi cette église des marronniers qu'elle rejoint maintenant. Nous te la remettons dans le nom de Jésus-Christ. Amen.
Voilà. Merci.
Alors aujourd'hui, programme d'aujourd'hui, ceux et celles qui désirent qu'on prie pour eux à la fin du culte, il y aura des personnes qui sont disponibles là derrière, à côté de l'estrade, voilà. Et puis, ce que André a oublié de vous dire, c'est qu'elle vous a préparé un apéro après le culte. Donc, vous avez un café enrichi. Et non seulement ça, mais il y a la kermesse œcuménique au centre paroissial œcuménique à la Cité, qui bat son plein hier et aujourd'hui. Vous pouvez y aller au marché Opus, vous pouvez aller rejoindre le stand de l'église évangélique de Mérin qui vend des livres, vous pouvez rencontrer des gens, vous pouvez aller manger à midi là-bas. Et dimanche prochain, non, pardon, oui, maintenant le programme de la semaine, bon, vous avez l'actu, on va aller très vite parce que vous avez les informations sur l'actu Mérin que vous recevez par email, et si certains ne le reçoivent pas, venez me dire, on vous inscrira sur la liste. Dans le programme, groupe de jeunes, mercredi soir à 19h30. Parole et silence, c'est méditation de la parole de Dieu, de la Bible, dans la chapelle à 18h30. Non, de 18h à 19h, pardon. Et dimanche prochain, on aura le plaisir d'avoir les Siouel, Roger et Dominique, pour notre culte. Les anciens pasteurs donc de notre église pour ce culte mission avec un repas communautaire au milieu du mois. Alors encore quelques petites brèves annonces diverses. Dimanche prochain, il y a le spectacle de la Marelle. Si Raymond arrive à l'afficher. Dimanche. C'est bien dimanche, hein? Ouais, dimanche à 17h, dimanche 12 novembre à 17h. Et puis un autre spectacle, c'est la comédie musicale Gladys Aylward, je ne suis pas très sûr comment ça se prononce, mais qui aura lieu à l'ECG Henri Dunant, samedi prochain, 11 novembre. Et là, le groupe de jeunes a une demande particulière parce qu'ils sont engagés pour ça. Donc...
En fait, on a deux demandes, parce que du coup, le groupe de jeunes va servir donc des boissons et des cakes à après les représentations. Donc, on aurait besoin de gens qui seraient disponibles le samedi même, si possible, avec des voitures, parce qu'on a peu de jeunes qui ont des voitures, pour nous aider à transporter les affaires du groupe de jeunes jusque sur place. Et s'il y aurait des gens qui seraient disponibles aussi pour faire des cakes ou des brownies pour nous aider... ce serait très apprécié. Donc, si vous pouvez faire l'un ou l'autre, venez me contacter après. Merci.
Il t'en faut combien de voitures ?
2 à 3.
2 à 3, d'accord. OK. Et puis, une annonce que je dois raccourcir, mais vous savez que l'Église évangélique est engagée dans l'action Paquet de Noël depuis de nombreuses années pour... un signe fort de proximité et de solidarité avec des gens qui vivent dans la précarité dans différents pays de l'Est. Et cette année, on n'a pas eu les ressources pour s'engager, pour faire des paquets, mais par contre, vous êtes encouragés à faire des dons. L'année dernière, c'est 120 000 paquets qui ont été distribués par ce système dans 7 pays d'Europe de l'Est. Donc, vous pouvez verser des dons et il y a des informations qui ont été données dans l'actu Mérin et je crois qu'il y a un prospectus. Voilà, il y a un prospectus qui est disponible pour ça, là derrière. Et pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à Annick Dubost ou à Anne-Marie Wenger. Voilà. Alors, merci aussi pour vos dons qui peuvent se faire de différentes manières, comme vous le savez. Et entre autres, il y a un endroit pour le faire. Là derrière. Voilà, nous allons maintenant arriver dans le temps de la bénédiction, mais nous allons d'abord chanter une bénédiction. Puis c'est Benjamin qui nous accordera la parole finale.
Voilà, c'est un chant d'envoi, Mon Dieu est bon de Rija. na 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 oh oh na 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 oh encore une fois na 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 oh oh na 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 oh il a gagné ma confiance je dis mon Dieu est le meilleur celui qui change l'existence c'est le Seigneur. Dans le combat, mon assurance. Non, je ne veux pas être ailleurs. Ce qui me donne l'espérance dans mon cœur. Sa grâce et sa compassion, sa bonté jamais ne seront épuisées. Sa faveur et tous ses dons, la grandeur de son nom inégalé. À jamais, à jamais. Et peu importe la saison, mon Dieu est bon. Oh, oh, oh.
Ensemble.
Na 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 na. Sans venir l'orage, quand la tempête veut se lever, le creux de sa main est mon passage obligé. Et quand l'ennemi fait barrage, quand je perds de vue ma valeur, ce qui me donne du courage dans mon cœur. Sa grâce et sa compassion, sa bonté jamais ne seront épuisées. Sa faveur et tous ses dons, sa grandeur de son nom inégalé. À jamais, à jamais. Et peu importe la saison, mon Dieu est bon. De tomber et sans sa main, oui, j'imagine où je serais. Quand les amis se camouflent, quand mon meilleur choix est le pire, quand je me sens à bout de souffle, je veux sa grâce et sa compassion, sa bonté jamais ne seront épuisées. Sa faveur et tous ses noms, la grandeur de son nom inégalé. À jamais, à jamais. Et peu importe la saison, mon Dieu est bon.
Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi. et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne sa paix. Amen.